Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. La philo en plat unique pour 500 000 lycéens de terminale dont les meilleurs ont planché sans trop de pression ce matin. Dans Europe Midi, des masques qui tombent, parfois encore timidement dans la rue. L'appel solennel d'Olivier Véran aux soignants en EHPAD pour qu'ils se fassent vacciner sous peine de les y obliger. Emmanuel Macron en déplacement en Picardie sur les terres de Xavier Bertrand mais en assurant qu'il ne fait pas campagne. La lutte contre les fraudes aux prestations sociales, les caisses d'allocations familiales engagent de nouveaux moyens et puis présidentiel demain en Iran, avec du changement en vue, mais une abstention record. Invité d'Europe Midi, Anne Goscinny, qui témoigne de la mort de son père, René Goscinny, quand elle avait 9 ans, et de la façon dont devenir orphelin si jeune façonne votre vie. Elle témoigne dans un ouvrage collectif, Grandir avec l'absence.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Après une année de lycée perturbée par le Covid, chaotique et décousue, c'était donc l'heure du bac philo ce matin pour un peu plus d'un demi-million d'élèves. La seule épreuve maintenue avec le grand oral et un enjeu réduit pour les candidats puisque c'est la meilleure note qui sera retenue entre celle qui de l'épreuve et celle du contrôle continu. Ce que les lycéens parisiens que vous avez croisés ce matin ont bien intégré, Virginie Riva.
Oui, en réalité, même dans ce grand lycée parisien, Fénelon, où je me trouve, pas mal d'élèves sont sortis plus tôt. J'en ai vu dès 9h15. C'est l'heure légale pour ne pas avoir zéro. Thibaut était l'un des premiers avec une bonne note en contrôle continu. Il n'a pas fait beaucoup d'efforts.
J'avais pas énormément d'enjeux étant donné que ma note au contrôle continu, c'était 15. Donc, j'ai pas spécialement énormément révisé pour cette épreuve. Et j'ai quand même essayé de commencer à composer sur l'explication de texte. Mais j'étais pas très inspiré, donc je me suis dit, autant sortir à ce moment-là.
Voilà, pour ceux qui ont choisi la dissertation, beaucoup ont planché sur discuter, est-ce renoncer à la violence, ou encore sommes-nous responsables de l'avenir ? Débriefing sur ce choix de sujet devant le lycée à l'instant dans ce groupe de filles.
Pas vous, mais moi je trouve que les sujets qu'ils proposent, ils sont moins scolaires que ce que nous on a fait pendant l'année. Parce que nous, on a fait des sujets très conventionnels, très scolaires, dans le sens où on avait fait un sujet, c'était « La vraie vie commence-t-elle lorsque le travail s'arrête ?» C'est quand même le plan du cours qu'on déroule, il n'y a pas vraiment de réflexion. Et là, on sent quand même qu'ils ont envie qu'il y ait une réflexion personnelle qui s'amène plus que juste recracher son cours.
Ils se disent qu'on n'a pas eu tous nos cours, et du coup, ça pouvait faciliter.
Ouais. C'est ça, voilà.
Une épreuve décidément bien chamboulée à leurs yeux, comme leur année de terminale. Toutes l'avouent, grâce aux aménagements, elles avaient multiplié les impasses.
Et Virginie Riva aux portes du lycée Fénelon à Paris. Pour les candidats du bac général, un texte de Durkheim et 3 sujets au choix. Discuter, est-ce renoncer à la violence ? L'inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance ? Sommes-nous responsables de l'avenir ? Nicolas Feldman a demandé à Philippe Danino, professeur de philosophie au lycée Alexandre Dumas de Saint-Cloud, ce qu'il pense des thèmes proposés.
On est sur des sujets plutôt classiques, qui sont relativement clairs. Au programme, il y a des notions qui se retrouvent, je pense par exemple, en effet, à la question de la connaissance de l'inconscient. C'est un genre de sujet qui a été souvent donné sous des formes un petit peu différentes. Peut-on connaître l'inconscient, etc., etc. Ce sont vraiment des questions générales que tout homme peut se poser et a pu se poser, mais qu'en effet, nous pouvons avoir tendance à lire donc, à la lumière de notre réalité à nous aujourd'hui. Par exemple, par rapport à sommes-nous responsables de l'avenir ? Bien entendu, on pourrait ici penser à l'écologie, au réchauffement climatique, etc. Mais il ne faut pas oublier non plus les enjeux plus larges de ce genre de questions qui peut aussi concerner l'avenir de l'homme en général. De ce point de vue-là, si vous voulez, il y a une tonalité relativement classique de ces sujets.
Autre question ce matin, le sentiment de liberté peut-il tenir à un seul petit bout de tissu ? La levée du port du masque en extérieur, la redécouverte des visages croisés dans la rue, la disparition progressive du symbole le plus visible de la vie sous Covid, la vie masquée depuis presque 13 mois, c'est tout cela que vous êtes allé mesurer, Caroline Baudry, à l'heure de la pause déjeuner devant les bureaux de l'Esplanade de la Défense.
Oui, et c'est bien de la joie que l'on lit sur ces visages. Certains ont encore du mal à réaliser. Selma et Pierre sont venus déambuler, main dans la main, sous la grande arche. Et pour la première fois depuis des mois, leur masque dans la poche.
Quand j'ai appris l'info, j'étais très émue. Heureuse et limite, je me sens bizarre de nous revoir.
Je suis allé chez le coiffeur hier pour refaire ma barbe, etc. Donc voilà, pour être prêt pour le premier jour.
Un premier jour à visage découvert que certains avaient à cœur de célébrer. Mina et Biba ont carrément mis leur réveil un peu plus tôt ce matin pour se retrouver autour d'un café sur une terrasse de l'Esplanade.
On a bien inauguré la levée du port du masque. Moi, il est là, je vais le mettre comme un bracelet. C'est fini. De sentir le vent, de voir les gens, de voir le sourire, l'expression. On est devenus des robots quand même. On articulait même mal, on n'arrive plus à parler normalement. C'est vrai, on ne s'entendait plus.
Une libération pour ces Parisiens, ces Parisiennes qui disent avoir souffert du port du masque. Ils confient aujourd'hui s'étonner de voir les nombreuses personnes autour de nous qui font le choix de garder encore un peu le masque sanitaire.
Les Français respirent, mais les autorités les exhortent à ne pas sombrer dans l'insouciance. Coup de semonce ce matin du ministre Olivier Véran sur la vaccination des soignants en EHPAD, avec la menace de rendre cette vaccination obligatoire, Anne Le Gall.
Oui, le ministre de la Santé a donné des chiffres. 60% de la population générale est vaccinée, mais cette proportion est moindre chez les soignants qui travaillent en EHPAD. Alors, maintenant que les doses de vaccins sont là, Olivier Véran leur demande de tendre leurs bras à leur tour durant l'été.
J'appelle les employeurs, j'appelle également les salariés de ces EHPAD, notamment à se faire vacciner. Nous y travaillons avec Brigitte Bourguignon. Et d'ici la fin de l'été, si ça ne devait pas s'améliorer, oui, nous nous poserions la question d'une obligation vaccinale. On ne prendra pas le risque d'exposer des personnes fragiles, âgées en établissement, du fait que des soignants auraient refusé de se faire vacciner. C'est important, ils ne peuvent pas être moins vaccinés que la population générale.
La couverture vaccinale est de 85% en médecine de ville, contre 50% seulement en EHPAD. Or, c'est là qu'on trouve les personnes les plus fragiles, insiste le ministre, qui redoute toute la diffusion de variants à la rentrée. Le Premier ministre Jean Castex a par ailleurs fixé hier un objectif de 35 millions de Français totalement vaccinés fin août. Nous en sommes aujourd'hui à 17 millions.
Anne Le Gall avec la collaboration de Victor Dolande.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Après une pause, Emmanuel Macron en Picardie, mais ne lui parlez pas de campagne.
Europe Midi. Patrick Cohen.
À trois jours du premier tour des régionales et des départementales, tous les leaders occupent le terrain, une sorte de super jeudi de campagne électorale. Tous, y compris le président, arrivé ce matin dans un village de la Somme pour échanger avec des élèves sur l'éducation et la lecture, mais qui prétend ne pas faire campagne. Sur place pour Europe 1, vous êtes là, Hélène Terzian.
Oui, je suis là. Vous le disiez, cette étape, pourtant, elle est loin d'être anodine. On est ici sur les terres de Xavier Bertrand, président et candidat dans les Hauts-de-France, en tête des intentions de vote au premier tour des régionales. Lorsque l'on demande à Emmanuel Macron s'il vient donner un coup de pouce à la liste LREM qui est autour de 10%, c'est circulé, il n'y a rien à voir.
Je l'ai dit dès le début, ça ne doit pas empêcher le gouvernement et le président de continuer à travailler. Ensuite, les régionales, elles sont partout en France. Et donc, j'étais la semaine dernière, la semaine d'avant, dans d'autres départements, je continuerai. Et comme ça ne vous échappe pas, je ne touche rien des sujets qui sont régionaux. Donc, je n'interfère pas dans cette campagne, je continue simplement le travail pour la nation et nos compatriotes.
Le président assure donc, mordicus, qu'il ne fait pas campagne pour les régionales. C'est en tout cas son troisième déplacement dans le cadre de son Tour de France pour, dit-il, prendre le pouls du pays. Alors, Emmanuel Macron est-il en campagne présidentielle? Là aussi, il réfute toute intention personnelle.
Non, comme ça ne vous a pas échappé, j'ai un mandat qui dure jusqu'en mai 2022. Donc, je suis au travail. On gère la crise sanitaire avec beaucoup de précautions, je le dis, on a pris des décisions hier qui vont permettre de passer une nouvelle étape. Voilà, donc on continue à tous ensemble sortir de cette crise et se redresser.
Si le président ne se présente pas encore en candidat, d'autres le font pour lui, à commencer par Xavier Bertrand, que le chef de l'État ne croisera pas aujourd'hui dans les Hauts-de-France. « Je suis candidat, il est candidat », confie le président des Hauts-de-France, et deux candidats ne se rencontrent pas.
Hélène Terzian en direct depuis la Somme, en Picardie. La campagne en Île-de-France, Valérie Pécresse accuse Anne Hidalgo de faire de la ségrégation sociale en rendant le stationnement des véhicules plus cher à Paris à compter du 1er août et celui des motos et scooters désormais payant. La présidente d'Île-de-France, candidate à sa réélection, invitée d'Europe 1 ce matin.
C'est un nouveau péage péage urbain qui est en train d'être instauré par la mairie de Paris vis-à-vis des banlieusards qui vont devoir payer 6 euros de l'heure. C'est l'écologie punitive que je réprouve. Parce que moi, je lutte contre la pollution. Mais je lutte contre la pollution avec une écologie positive qui va aider les automobilistes à changer de voiture. Je lutte contre la pollution, pas là. Bagnole. Pourquoi? Tout simplement parce que des millions de Franciliens n'ont pas d'autre option aujourd'hui pour se déplacer. Et donc, Madame Hidalgo, avec son péage, cette taxe sur les deux roues, est en train de faire de la ségrégation sociale.
Valérie Pécresse avec Sonia Mabrouk. La fraude sociale, fraude au RSA, à la prime d'activité, aux aides au logement, évaluée l'an dernier à 255 millions d'euros, c'est du moins ce que les allocations familiales ont pu détecter. Les caisses ont un peu levé le pied sur les contrôles à cause de la crise sanitaire, mais les CAF annoncent un renforcement de leur arsenal, Olivier Samin, notamment pour une traque plus efficace des fraudes à grande échelle.
Oui, parce qu'à côté des fraudes courantes, la non-déclaration par exemple de certaines ressources ou la dissimulation du fait que l'on vit en couple, il y a des fraudes beaucoup plus sophistiquées et surtout élaborées par de véritables professionnels. Et là, les techniques classiques qui consistent à croiser les fichiers, fichiers des impôts, de Pôle emploi et d'autres organismes, ces techniques classiques sont utiles mais elles ne suffisent plus. Il faut mettre en place des équipes spécialisées dotées de compétences pointues et capables de travailler à un échelon géographique plus vaste que celui du ressort de chaque caisse d'allocation familiale. C'est ce que la CNAF a décidé de faire en constituant une brigade de 30 agents dont certains sont d'anciens policiers, d'anciens gendarmes, voire d'anciens détectives qui ont prêté serment. Ils sont actuellement sur quelques grosses affaires, notamment la démarche menée par un groupe organisé pour faire croire à des allocataires via les réseaux sociaux qu'ils peuvent obtenir des prestations alors que ce n'est pas le cas. Ils leur demandent leurs identifiants et obtiennent le versement des prestations en question en prélevant au passage une commission. Il y a aussi, autre affaire actuellement traitée, un individu qui a utilisé des identités multiples pour obtenir le versement de prestations par différentes caisses à travers la France. Au total, 54 caisses se sont jointes à une plainte contre cette personne.
Élection présidentielle demain en Iran. 4 candidats, tous des hommes évidemment, en lice pour la succession d'Hassan Rouhani. Les autorités assurent qu'il s'agit d'une compétition sérieuse, mais pour tous, le scrutin semble joué d'avance et devrait consacrer la mainmise des conservateurs en la personne du chef de l'autorité judiciaire, Ebrahim Raisi. Chacun, du coup, s'attend à une forte abstention et les autorités tentent par tous les moyens de convaincre les Iraniens d'aller voter. Jean-Sébastien Soldaini.
Et ça passe tout d'abord par les téléphones portables. Pour essayer d'intéresser les plus connectés à la campagne électorale, un forfait internet de 6 gigas a été offert par le gouvernement à chaque abonné. Elmira vient juste d'en arriver au bout.
Ils espéraient que nous allions l'utiliser pour regarder les meetings et suivre les infos sur la campagne électorale. Mais moi, je l'utilise pour aller sur les réseaux sociaux comme Telegram, Instagram, uniquement pour une utilisation personnelle, pas du tout pour suivre la politique.
Ça, c'était pour intéresser les plus jeunes. Raté. Pour les indécis, c'est sur les heures limites du scrutin que jouent les organisateurs. Il sera possible de voter dès 7h du matin. Les bureaux de vote fermeront à 2h du matin, du jamais vu pour ce jeune avocat.
En laissant les bureaux de vote ouverts aussi longtemps, les organisateurs espèrent que les gens vont réfléchir plus longtemps avant d'aller voter. Mais ça m'étonnerait que je me décide à y aller en pleine nuit.
Voter en pleine nuit, ce sera possible, puisque les assesseurs ont reçu une consigne. S'il y a du monde devant les bureaux de vote, ils pourront rester ouverts jusqu'à 6h du matin.
Jean-Sébastien Soldaini, envoyé spécial d'Europe 1 en Iran. Un mot de football avec des nouvelles du Danois Eriksen, victime d'un arrêt cardiaque en plein match samedi. Le joueur de 29 ans va se faire implanter un défibrillateur cardiaque. On ne sait pas quelles seront les conséquences sur sa carrière à l'Inter Milan, mais d'autres joueurs ont pu reprendre la compétition après avoir été équipés de cet appareil qui permet de contrôler et de réguler le rythme cardiaque. Le temps, Anissa Haddadi, encore une journée orageuse.
Oui, nous avons actuellement, Patrick, 18 départements du sud-ouest placés en vigilance orange aux orages. Alors attention parce que nous avons également les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes placés en vigilance orange, orage et pluie et inondation. Dans tous ces départements, on attend des cumuls d'eau très importants encore cet après-midi. Le Rhône reste, lui, en vigilance orange. Canicule, il va faire encore très chaud du côté de Lyon cet après-midi. L'instabilité et les averses orageuses se maintiennent encore cet après-midi. Sur les Pays de la Loire, le centre, la région parisienne et le nord, les orages arrivent. De la grêle et du vent accompagneront les orages les plus forts. Le vent marin et le vent d'OTAN se renforcent dans le sud. Vous l'avez compris, c'est une météo assez chaotique pour ce jeudi. En Alsace, bonne nouvelle, le temps ensoleillé et estival se maintient. Il va faire beau. Les orages arrivent du côté de la Bourgogne en fin de journée. Les températures, elles sont fraîches à l'ouest avec le passage des orages. 20 degrés à Brest, 23 à La Rochelle et Biarritz, 27 pour Limoges, 30 degrés encore à Paris, 32 pour Marseille, 34 à Lyon en vigilance orange canicule et 36 la maximale pour Strasbourg.
Merci Anissa.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Invité d'Europe Midi dans un instant, Anne Goscinny qui, comme d'autres orphelins qui très tôt ont entendu, se sont entendus dire « Papa ou maman ne reviendra plus ». Anne Goscinny qui a grandi avec l'absence.